Welcome to Greendale's Drug Awareness Show!
I finally have a case of lupus.
Lester, is this what you want?
Mr. Buckland, we are the sexual revolution.
What is up with the sex? It's all anybody thinks about anymore. Sex, sex, sex. What is the big deal?
Call it. Are you right?
Yeah.
Yeah?
Are we having fun yet?
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie de retour après deux petites semaines de vacances bien méritées. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
Alors, c'est déjà l'épisode 23 de la saison 3, c'est bien ça?
Oui.
Et on va vous parler séries télévisées en commençant comme chaque semaine par la revue des pilotes que tu as pu visionner pour nous cette semaine.
Alors évidemment, il y en a eu beaucoup, puisque, ben, comme tu l'as dit, on ne s'est plus parlé depuis un petit temps. Et en plus, la dernière fois qu'on s'est parlé, ben, j'ai passé tellement de temps à parler de la trêve que je n'avais pas eu l'occasion de dire tout le bien que j'avais pensé d'autres petites séries à côté. Donc, je vais commencer par une de ces séries qui avait été un petit peu laissée pour compte la dernière fois. Il s'agit de Up and Leonard, une série proposée sur le network, sur la chaîne, on va dire, Sundance TV. Alors, de quoi est-ce que ça nous parle exactement? Il s'agit de deux potes dans, je crois que c'est le Texas, hein, dans lequel ils habitent, en tout cas dans le sud profond. Up est un hétéro blanc assez classique, assez déprimé parce que sans femme, sans véritablement beaucoup d'ambition dans la vie. Et puis on a Léonard qui lui est un homosexuel noir et qui se trouve être son meilleur ami. Tous les deux donc vont de petit boulot en petit boulot, de galère en magouille et survivent plus ou moins comme ça, jusqu'à ce que l'ex-femme de Hap débarque et leur propose un coup a priori sans véritable risque et qui peut rapporter gros. Donc évidemment, ils vont se lancer dans l'aventure, sachant que l'aventure va devoir comprendre une petite équipe en dehors de ces deux compères-là, équipe plus ou moins hétéroclite et plutôt bizarre, voire parfois douteuse, et dont le passé de certains risque éventuellement de venir se mettre en travers de leur projet. Alors, je n'en ai vu que deux épisodes pour le moment, et je dois dire que c'est vraiment sympathique comme série. C'est assez original, c'est vraiment le genre de série où le seul but c'est de prendre son plaisir sans plus de prétention que ça, et jusqu'à présent ça marche plutôt
bien.
Ça fonctionne plutôt bien, donc voilà, c'est plutôt une bonne surprise que je n'attendais pas parce que je n'en avais jamais entendu parler avant de l'avoir débarqué, mais que je conseille.
Très bien.
Voilà, ça c'était donc le premier pilote dont j'avais voulu parler la fois passée. Cette fois-ci, je vais me pencher sur une autre série dont j'ai vu beaucoup plus d'épisodes. Il s'agit de The Ranch sur Netflix.
Oui.
Alors, The Ranch, il s'agit d'une comédie qui peut être un petit peu déstabilisante quand tu commences à la regarder, parce que Eh bien, tu te dis, ah chouette, c'est une série qui va nous proposer de retrouver Ashton Kutcher et Danny Masterson qu'on avait tous les deux connus plus jeunes jouant dans The 70 Show. Mm-hmm. Et donc, ça donne plutôt envie. On se dit, ces deux-là vont pouvoir nous faire quelque chose d'assez original,
bon.
Sympathique,
ouais.
Etc. Sauf qu'on est assez surpris de voir que bah, le format est extrêmement classique, voire...
plat.
Voire assez plat, puisqu'on a des rires enregistrés, on a uniquement des décors en intérieur.
Oui, c'est d'ailleurs ma plus grosse déception, puisque oui. The Ranch, avec le générique tel qu'il est présenté, on voit des grands espaces, on voit la vie dans les ranchs américains, et au final, oui, on voit très très fort qu'on est dans un tout petit studio d'enregistrement, mm-hmm. un petit théâtre, avec des rires enregistrés, on pourrait même croire qu'ils ont du public, mais enfin voilà, c'est troublant de présenter quelque part une série qui est censée se passer dans les grands espaces américains, alors qu'on ressent très fort qu'on est confiné dans un petit espace.
Oui, ça, il faut avouer que c'est très très dommage. Et évidemment, ce problème de format dessert particulièrement le plaisir qu'on pourrait en tirer par ailleurs. Même si, bon, il faut être un petit peu honnête, je crois que Ashton Kutcher et Danny Masterson ensemble, ils pourraient encore me réciter le butin, que je serais quand même ravie de les revoir, tu vois. Mais malgré tout,
ouais.
tu constates que par rapport aux personnages qu'ils jouaient dans The 70 Show, ils ont gardé à peu près la même dynamique tous les deux. On a Ashton Kutcher qui joue plutôt le jeune beau gosse, un petit peu crétin sur les bords. Et on a Danny Masterson, toujours beaucoup plus acide dans ses répliques et qui est tout aussi gamin que lui, mais d'une autre manière. Donc la dynamique est la même. Ça, quand The 70 Show nous manque, eh bien, pourquoi pas, mais ce n'est pas très original. Ceci dit, mais autour de ça, on a quand même un milieu et une histoire qui, par contre, est assez peu représentée malgré tout dans les séries et surtout dans les comédies. Et pour ça, c'est peut-être malgré tout intéressant, mais il faut passer outre un grand nombre de difficultés qui nous sautent au visage au premier abord.
Bah avec leur passif, oui, évidemment. Enfin, moi, j'ai quand même la forte impression qu'ils continuent leur carrière un peu sur une voie de garage.
Mais pourtant, à la limite, Danny Masterson, c'est vrai qu'il n'a pas fait énormément de trucs absolument géniaux depuis.
Mm-hmm.
Mais Ashton Kutcher, quand même.
Oui, d'accord, mais justement, il se retrouve là, dans une petite sitcom où il. Enfin, ouais. Il refait des choses qu'il a fait maintes fois, mieux, j'ai l'impression. Et c'est pas là qu'il s'épanouit. Enfin, voilà, c'est une impression.
Oui, je sais pas. On peut imaginer que le simple plaisir de se retrouver, d'avoir leur petit projet à eux, et éventuellement peut-être l'espoir que si la première saison marche suffisamment, ils auront plus de moyens pour développer une deuxième saison un petit peu plus argentée. On peut imaginer que ce soit ça qui motive le projet. Toujours est-il que malgré tous ces problèmes-là, moi, j'ai quand même regardé 7 épisodes jusqu'à présent. Il y en a, je crois, que 10 sur la première saison. Donc, tu vois que ça aura été assez vite dévoré. Je regarde ça avec, malgré tout, un certain plaisir. Tiré, c'est vrai, en grande partie du fait de revoir cette dynamique-là qui était plaisante à la base. Mais aussi parce que on y aborde un type de personnage, un type de milieu, un type de problématique qu'on ne voit pas souvent. On est dans un milieu très, très rural, très conservateur aussi, puisqu'il y a beaucoup de blagues sur le fait qu'ils sont très clairement républicains, très pudiques dans leurs émotions, etc. Et ça, quelque chose malgré tout de touchant. Et plus tu avances dans la saison, et plus tu as l'impression que même si la dynamique entre ces deux personnages reste la même, ils commencent malgré tout à avoir une existence propre qui se détache un petit peu de Hyde et je me souviens plus du nom d'Ashton Kutcher dans Ted 70 Show. Ça va me revenir forcément plus tard. Bref, donc voilà. C'est pas grandiose, ça casse pas des briques, mais en même temps.
Mais ça divertit.
C'est divertissant.
Personnellement, quand je tombe devant, je reste assis, je bouge pas. Donc, mais voilà, si je dois retenir un des personnages qui moi me marque le plus, c'est le père, quoi. Voilà.
Oui, tout à fait.
Là, il y a une vraie identité, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment vu. Mm-hmm. Les deux autres, on vit un peu de souvenirs, quoi.
Un petit peu, c'est vrai, voilà. Mais on espère que petit à petit, ils vont se détacher de plus en plus du modèle originel, on va dire. Voilà, donc ça c'était pour The Ranch, à suivre ou pas, si on supporte vraiment pas les rires enregistrés, ce qui est aussi parfaitement louable. La dernière série dont j'aurais envie de parler, il s'agit de Underground et c'est une série proposée par WGN. Alors, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'esclaves dans le sud américain avant évidemment la guerre de sécession. D'esclaves donc dans une plantation de coton. Et une sorte à nouveau de grand domaine terrien, tenu évidemment par des Blancs. On a certains esclaves qui travaillent à l'intérieur de la maison, d'autres en extérieur. Et ils vont commencer à élaborer un plan pour réussir à s'échapper, sachant que ça a l'air quand même assez compliqué parce qu'ils sont plus ou moins cernés entre des marais, des forêts, des trucs absolument infranchissables. Et donc, il faut trouver un plan. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont pour simple travail que de chasser les esclaves qui se sont enfouis. Ça leur rapporte de l'argent, donc ils s'occupent aussi de ça. Enfin bref, on voit que c'est vraiment pas facile pour eux, mais on voit aussi que leur vie est tellement insupportable qu'au bout d'un moment, ils sont obligés de prendre action et de choisir la fuite, malgré tous les risques que ça comporte. L'originalité de la série, une des originalités, sera qu'on a un certain nombre de fonds sonores, de musique, qui sont assez modernes par rapport à l'époque. L'époque, voilà. Donc, un petit peu comme le principe qui avait pu m'énerver, par exemple, dans The Nick, où j'avais pas du tout aimé la musique électronique cette histoire du début du XXe siècle. Ici, par contre, ça ne m'a pas du tout dérangé, probablement parce que c'est pas de la musique électronique, et du coup, ça correspond un peu plus à mes goûts, tout simplement. Je sais pas ce que tu en as pensé de ces quelques épisodes que...
Moi, je t'en avais déjà parlé, j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, donc l'univers pour moi me paraît crédible. Mm-hmm. Maintenant, de par la fin du dernier épisode qu'on a vu, voilà, ça part peut-être un petit peu en vrille par rapport au récit. Mm-hmm. Je m'attendais à ce qu'ils suivent déjà le plan, mais le plan ne se passe pas comme prévu et je sens que ça va m'énerver. Je sais pas pourquoi.
Ah bon.
Moi, j'aime bien les plans bien préparés.
Quand un plan se déroule sur un écran.
Oui, mais exactement. Mais voilà. C'était déjà assez complexe comme ça et on en rajoute une couche, j'ai l'impression, là. Et ouais. Je sais pas si ça va me plaire.
Oui.
Voilà.
À suivre, évidemment, mais c'est vrai que. Le propos, l'ambiance, les personnages, etc., tout ce qui se met en place dans les premiers épisodes sont plutôt encourageants, même s'il y a certains moments où tu te dis « oui, là, c'est un petit peu gros quand même ». Donc, c'est pas dépourvu de défauts, mais c'est assez sympathique malgré tout. Hein. Ça donne plutôt envie de les voir s'en sortir. C'est plutôt une belle surprise. À nouveau, un truc que j'attendais pas du tout. Et finalement, je suis jusqu'à présent plutôt bien accrochée à cette histoire-là. Donc, à suivre.
À suivre, en effet. Ben voilà, on a fini le petit tour des régions.
on va pas poursuivre plus loin, oui.
Non, ok. Bon, alors on va s'offrir une petite pause musicale, si tu le veux bien.
Oui, on va commencer par Tainted Love de Soft Cell, entendu à nouveau dans The Americans.
Voilà de retour avec le sujet du jour qui va être abordé dans Série Folie. Je t'écoute, Aurore.
Eh bien, on va aborder la question des héros, les héros et nous, notre rapport aux héros. Et on va donc commencer tout de suite par la première constatation, c'est que le héros, évidemment, c'est un support d'identification absolument incontournable. Hein. C'est lui qui va nous permettre de véritablement nous immerger dans l'histoire, nous attacher aussi émotionnellement. Donc
nous
c'est quand
identifier
même
en tant qu'héros.
Exactement. Et donc c'est quand même très très important. Le fait que ce soit un support d'identification fait évidemment qu'il va y avoir une certaine exigence qui d'ailleurs se développe de plus en plus, on en prend de plus en plus conscience, de représentativité de toutes les différentes composantes de la population. Parce que, évidemment, pendant quand même très très longtemps, le héros a été assez monolithique. Il représentait généralement un homme, généralement blanc, généralement hétérosexuel, généralement d'âge moyen, hein, entre quoi, 30 et 40 ans, souvent, à la limite 25 et 45 ans, mais c'est quand même très très fort de ça qu'il s'agit pendant très longtemps, et évidemment ça joue sur les représentations de tout le monde, puisque à partir du moment où le seul support d'identification c'est ça, ça ne peut qu'invisibiliser les autres problématiques que peuvent rencontrer d'autres catégories de la population. On peut évidemment l'imaginer tous. Du coup, on a de plus en plus dans les séries une volonté de représenter des héros beaucoup plus divers, beaucoup plus originaux, qui vont se distancier un petit peu de ce modèle qui a été longtemps omniprésent. Et c'est d'ailleurs, pour le moment, peut-être même parfois un petit peu trop, j'ai l'impression, mais c'est un des critères qui va énormément jouer sur le buzz que peut faire ou non une série, si cette série est la série qui va commencer à représenter telle catégorie de la population qui jusqu'à présent n'avait jamais eu vraiment de héros de ce type, on va particulièrement plus en parler qu'une autre qui représente une catégorie de la population beaucoup plus présente dans les médias et notamment dans les fictions télévisuelles. On peut penser par exemple au buzz qu'a fait récemment la série Jessica Jones, qui s'est vue attribuer des plus grandes qualités que Daredevil, en partie parce qu'elle traitait d'une problématique avec une héroïne qui avait vécu dans sa chair cette problématique-là, la problématique de l'abus sexuel, hein, je crois qu'on pourrait plus ou moins le résumer comme ça, même si c'est plus large que ça, puisqu'il s'agit d'un abus psychologique également, une sorte d'emprise psychologique, mais soit. Donc, il y a une beaucoup plus grande attention qui est donnée pour le moment à ce genre de choses. Ça, c'est une première constatation qu'on peut faire.
Est-ce que c'est pas non plus, oui, vraiment un effet de... pas de mode, mais est-ce qu'on ne surfe pas là-dessus justement pour démarquer sa propre série, d'avoir justement un héros ou presque un anti-héros, quelque chose qui n'a jamais été fait? Est-ce qu'on ne cherche pas obligatoirement l'originalité?
Mais c'est un des critères, on en avait parlé justement l'émission précédente quand on parlait des différents critères qui nous... permettait de juger une série. De fait, le fait que cette série sorte de l'ordinaire d'une manière ou d'une autre, et donc notamment par le héros qu'elle va nous proposer, ça va être évidemment important. Et c'est vrai que parfois j'ai l'impression que pour le moment on y accorde un petit peu trop d'importance, alors que certaines séries sont pas absolument géniales, mais parce qu'elles ont ça, elles vont être beaucoup plus mises en avant que d'autres séries peut-être plus abouties, mais moins originales. Donc...
Okay.
Mais bon, ça, c'est toujours une sorte de... d'entre-deux qu'il faut trouver, parce qu'évidemment, si on n'a pas à un moment une exigence volontariste de changer la manière dont on se représente les héros, ça n'avancera pas non plus. Donc, il faut trouver le juste milieu. Je crois qu'on n'en a pas encore totalement fini avec cette tendance actuelle, mais malgré tout, moi, je commence déjà à en sentir les limites, et à mon avis, ça va se, se généraliser. Hein. Donc voilà, probablement que ça va un petit peu se calmer un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'à partir du moment où les héros sont des supports d'identification, ce qui est assez drôle à remarquer, c'est que quand on a des séries avec des héros multiples, qui nous représentent soit des groupes d'amis, soit des équipes qui sont censées travailler ensemble, soit ben, comme dans Desperate Housewives, un groupe de femmes qui ne s'entendent pas toutes forcément toujours, mais bon, amis, ennemis, etc. Quoi qu'il en soit, quand on a des héros multiples, eh bien, une chose qui est assez drôle, c'est que même si on n'est pas forcément, on se retrouve pas forcément entièrement dans un personnage, on va avoir tendance assez naturellement à se dire « Ah, moi, je serais plus ça ». Alors que probablement que si on n'avait pas tout ce groupe, on aurait tout simplement, on s'identifierait tout simplement à personne. Mais la dynamique de groupe, cette espèce de d'identification systémique, je l'appellerais, oui, j'invente parfois des concepts. Il y a un effet d'identification systémique qui se dit, j'ai pensé en fait à ce concept en écoutant un autre podcast, celui de Yael Simkevich, I Cannot Sit Still, qui expliquait que bah, dans Friends, elle était plutôt, je crois que c'était Monica, parce que sa meilleure amie était Rachel, j'imagine, ou bien c'était le contraire. Bref, quoi qu'il en soit, c'est assez marrant de constater que à partir de ce qu'on vit et des rapports que nous-mêmes on entretient avec les personnes qui nous entourent, on va plus ou moins se situer par rapport à des personnages, non pas tellement parce que ces personnages nous ressemblent particulièrement et qu'on se sent vraiment totalement compris à l'intérieur de ces personnalités-là, mais parce que la dynamique qui s'instaure entre nous et nos amis et entre ce personnage-là et les autres personnages est un petit peu similaire. Donc ça, c'est assez intéressant à repérer. On part toujours de ce qu'on connaît, mais finalement, on a une sorte de déterminisme aussi qui se perd, vu qu'on a des catégories qui nous sont proposées. Et si on n'est pas l'un, ben c'est forcément qu'on doit être un petit peu plus l'autre, quoi. Par exemple, dans Sex and the City, eh bien, tu es un des quatre types de femmes proposées. Tu dois forcément rentrer dans une de ces catégories-là. Et assez naturellement, même si tu te sens pas véritablement ni Carrie, ni Charlotte, ni je sais plus qui ou quoi, eh bien, malgré tout, tu vas quand même être plus l'une que l'autre. Et donc... Il y a quand même une sorte d'identification qui se fait.
Je suis curieux. Tu t'identifies à qui, donc?
Alors, dans Sex and the City.
Oui.
Mais je ne me souviens même plus c'est qui la plus dévergondée des quatre, quoi. Je ne sais plus comment elle s'appelle.
Ah oui, je vois qui tu veux dire, moi non plus. Mais voilà, je suis étonné de voir que c'est elle que tu choisis.
Bah, c'est ma préférée. Maintenant, je ne sais pas si je m'identifie à elle, mais c'est ma préférée.
C'est ta préférée, en tout cas, okay.
C'est sûr. Bon, bref. Mais même, tu vois, dans les Desperate Housewives, il y a aussi ce genre de dynamique.
Mais là aussi, on en reparlera après. Je suis quand même curieux de savoir quels sont tes choix. Ben oui, ok.
Et donc, dans Friends, dans Oh, I Met Your Mother, dans plein de séries comme
on devrait faire une soirée comme ça autour de toutes les séries et dire voilà,
c'est toi tu serais voilà. Plutôt qui
il y a de quoi à mon avis ouvrir des débats,
mais malgré tout tu vois, mais je me retrouve dans aucune des femmes de Sex and the City ni aucune des femmes de Desperate Housewives.
Tu m'étonnes.
mais s'il y a que ça qu'on me propose comme modèle, ben malgré tout je suis plus attirée par un des modèles, quoi, même si aucun ne me convient vraiment. Donc c'est plutôt ça que je voulais mettre en avant par cette idée de l'identification systémique. Bref.
Oui, bien. J'ai bien compris.
Placer mes concepts. Donc voilà, on va peut-être s'arrêter là pour cette première partie et passer à la musique.
Si tu le veux, c'est bien. Tu as appris à te taire plus tôt, c'est bien. Qui sait, il y a de l'espoir.
Voilà, alors il va s'agir de Shaking des Dandy Warhols, entendu dans une autre série avec des héros multiples, c'est Skins UK.
Fameux générique de Oz que tu apprécies beaucoup. Ben oui, avec le son de ta messagerie vocale, enfin messagerie sur ton GSM. Voilà, on sait tout. Alors.
Bon, donc on va continuer avec en revenant un petit peu aux origines du personnage, avec le rôle traditionnel qu'il joue et notamment le rôle traditionnel que l'on peut lui repérer dans les mythes, dans la mythologie. Hein. Mmh. On sait que la mythologie est quand même porteuse d'un d'une forte dimension symbolique, eh bien, le personnage, justement, un de ses rôles traditionnels, c'est d'incarner symboliquement une sorte de compromis autour de l'une ou l'autre problématique. Il réunit quelque part en une seule personne les oppositions, les contradictions qui peuvent traverser une question. Ça peut être évidemment toutes sortes de questions différentes, la question de la destinée, la question de la liberté, la question de, du rapport entre la vie et la mort, peu importe, les sujets sont suffisamment nombreux et on peut tous avoir en tête des mythes et des héros qui incarnent comme ça des problématiques différentes. J'ai quelques exemples éventuellement en tête. Toi, tu me diras peut-être si tu en as d'autres. Premier exemple, eh bien, on va prendre un exemple assez simple. Dexter. Eh bien, Dexter, c'est un héros qui propose une sorte de compromis, de fusion entre la pulsion de meurtre, hein, et l'institution judiciaire, la justice institutionnalisée. Et donc forcément, la combinaison de ces deux-là dans ce personnage-là va nous transmettre plutôt comme idée autant le fait que, eh bien, forcément, toutes nos pulsions de vengeance, etc., doivent être canalisées au service de la communauté, mais aussi, éventuellement, que pour véritablement réussir à obtenir justice, il faut parfois faire appel à nos pulsions les plus
basiques, animales.
Basiques, voilà. Mmh. Donc, on a jamais une vérité pure avec les héros, les grands héros, les héros mythologiques. On a à chaque fois une sorte de mélange entre les deux. De même, eh bien, on va avoir le Dr House. Le Dr House, c'est le mélange entre la santé et la maladie, mais aussi, et c'est totalement corollaire dans son cas, entre la vérité et le mensonge. Et donc, on a une sorte d'image comme ça de la quête dans laquelle il n'est jamais possible totalement d'accéder à la vérité sans passer par une phase de mensonge. Mais en même temps, le mensonge lui-même finit peut-être toujours par nous révéler une part de vérité caché. Donc voilà, évidemment, on peut à chaque fois, pour chacun de ces personnages, imaginer qu'ils incarnent aussi d'autres problématiques. Hein. Ici, je ne donne que des exemples que j'ai inventés comme ça, un petit peu au pied levé. Je dois l'avouer, il y aurait évidemment moyen d'approfondir énormément le sujet. Walter White, autre exemple de héros, est une sorte de combinaison entre une assez grande médiocrité du personnage et puis une mégalomanie également qui sont combinées dans ce petit corps d'homme. Et finalement, ça nous donne l'image de la banalité du mal. Le mal qui, à la fois, est absolument terrifiant et à la fois part d'un homme absolument ordinaire, et c'est ça qui est fascinant. Autre exemple, on a évidemment Buffy. Buffy, ben c'est...
Ah oui.
Évidemment.
Sans Buffy, qu'est-ce qu'on ferait ?
Mais je te le demande. On a évidemment la combinaison entre une adolescente et une combattante, et cette combinaison va permettre de mettre en évidence tous nos préjugés sur ce qu'est censé être une jeune fille. Puisque ben, combiner la jeune fille, l'adolescente et la combattante va mettre en
le mélange des
en
deux,
lumière
c'est la jeune
tout
fille.
Ça.
Waouh. j'ai hâte de regarder fille en fait. Hein.
Mais voilà, tu vois. Mais c'est aussi, ça peut être aussi la combinaison entre la vie et la mort et nos envies de vivre et nos envies nos manques d'envie de vivre, donc plutôt la dépression, l'absence d'envie. Et ces deux éléments-là mènent, dans Buffy en tout cas, à une sorte de morale de l'action. Alors, on n'est pas forcément obligé d'avoir une confiance folle en la vie et avoir envie de la mordre à pleines dents. Mais en même temps, il faut dépasser la dépression pour accéder à une sorte de compromis qui serait cette attitude plus volontariste et plus offensive vis-à-vis des difficultés que l'on peut rencontrer dans la vie. Dernier exemple que j'avais trouvé, je te jure que j'arrêterai après ça, dans Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., on a des personnages qui, au départ, sont finalement des personnages assez ordinaires, hein, tous, et d'ailleurs c'est probablement en partie la raison pour laquelle quand on commençait la série, elle n'avait rien de particulièrement enthousiasmant. Mais petit à petit, on voit que ces personnages vont être de plus en plus marqués par l'extraordinaire. Et c'est quelque part le prix à payer pour permettre à toutes les personnes à l'extérieur, finalement la société, en particulier évidemment l'Amérique, hein, la société américaine, c'est le prix à payer pour ces individus-là d'être marqués dans leur corps et dans leur être par l'extraordinaire pour leur permettre à eux de continuer à vivre une vie relativement normale. Voilà.
Bien, belle préparation. Moi, j'ai pas d'exemple précis. Vraiment non. Non, là, comme ça, qui me vient, non.
Évidemment, j'aurais dû te donner des devoirs.
Hein, oui, et que j'ai au moins 3 ou 4 jours de préparation. Pour être aussi ravagé que toi, c'est pas évident.
Désolé.
Et donc, j'aurais dû certainement chercher longtemps.
Bref, on va passer à la musique, du coup.
La musique, après cette belle théorie et exemple pratique, on t'écoute.
Alors, il s'agit de The Beast in Me, chanté par Nick Lowe, et c'est entendu dans The Soprano.
The beast in me is caged by frail and fragile bars. Restless by day and by night, rants and rages at the stars. God help the beast in me. The beast in me has had to learn to live with pain and how to shelter from the rain. And in the twinkling of an eye, might have to be restrained. God help the beast in me. Sometimes it tries to kid me that it's just a teddy bear, or even somehow managed to vanish in the air. Then that is when I must beware of the beast in me, that everybody knows. They've seen him out dressed in my clothes, patently unclear if it's New York or New Year. God help the beast in me. The beast in
que nous entamons déjà la dernière partie de cette émission Série Folie avec un nouvel aspect du sujet du jour.
Oui, on va clôturer ce sujet qui mériterait évidemment encore énormément de développement, mais bon, c'est un petit peu toujours le principe de cette émission. Hein. À chaque fois, on ne fait qu'effleurer les sujets qu'on commence à analyser en proposant simplement un début de réflexion et puis à chacun de mener sa barque vis-à-vis de ça.
Sa propre quête, oui.
Voilà. Donc, on peut constater que, en fait, des héros, il en existe un très grand nombre, toute une typologie de héros différents, et tous ces héros vont aussi nous correspondre à différentes visions du monde. Le fait de présenter un héros extrêmement positif et plus qu'humain, hein, comme c'était le cas par exemple dans la mythologie classique aux origines, ça ne nous présente pas la même vision du monde que d'avoir un anti-héros ou un héros absolument ordinaire. Alors si on regarde un petit peu la typologie, alors j'ai pas été rechercher mes typologies universitaires qu'on peut trouver dans les livres, hein, j'ai fait un petit peu en fonction de mes souvenirs et puis de ce que j'en connais. J'en ai sûrement oublié quelques-uns, mais en gros, on a quoi ? Ben, on a le héros classique, positif et absolument extraordinaire, hein, qui va vivre des situations elles-mêmes extraordinaires. Dans les séries en particulier, ce type de héros, ça fait quand même, sont de moins en moins représentés. Il l'était peut-être quand même assez bien il y a encore quelques décennies. On peut penser, par exemple, à MacGyver, par exemple, qui est un héros quand même un peu extraordinaire par toutes ses compétences techniques et qui arrivait de se sortir de situations elles-mêmes assez peu banales grâce à cela. Un Magnum aussi, à sa manière, était un petit peu extraordinaire. L'agence touriste, tous ces héros-là, bon, il y en a sûrement,
évidemment, hein.
Beaucoup d'autres, mais mes connaissances en série d'avant les années 90 est assez réduite, je dois l'avouer. Mais donc, on avait quand même ce modèle classique qui était représenté, mais on constate que quand même depuis, je dirais, 15 voire 20 ans, mais l'évolution se fait de plus en plus nette, on a plutôt tendance à avoir des héros qui ne vivent pas forcément des situations extraordinaires, même lorsqu'eux-mêmes sont extraordinaires, c'est ce qu'on peut remarquer, par exemple, dans des séries qui vont nous représenter même des super-héros. Alors, j'ai jamais regardé Smallville, mais j'imagine que c'est un petit peu ça le principe, puisqu'il s'agit de l'enfance de Batman, de Superman.
Batman, oui.
je pensais à Gotham en même temps, désolé. Donc, on a comme ça un type qui est un super-héros à la base, hein, mais j'imagine qu'il est placé dans un contexte finalement beaucoup plus banal, et ça permet de faire une série qui dure comme ça super longtemps. Bon, donc on voit que malgré tout, ça a tendance à aller attirer plutôt vers l'ordinaire. J'ai d'ailleurs déjà souvent dit dans cette émission à quel point la série était véritablement le format médiatique qui adorait mettre en scène et s'appuyer sur le quotidien, sur l'ordinaire. En dehors de ces héros, on a vu apparaître à partir de la fin des années 90 un certain nombre de anti-héros. également. Je dis la fin des années 90 parce que c'est à ce moment-là que c'est devenu véritablement plus une mode. J'imagine qu'il y en avait déjà eu avant aussi, hein, à nouveau. Bon, je ne fais qu'avec mes maigres connaissances en la matière. Quoi qu'il en soit, l'anti-héros, ben, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un héros qui est tout simplement le mal, la représentation du mal. Et cette représentation du mal, mais ça peut être un mal absolu, tout simplement fascinant à regarder comme objet de contemplation, mais sans véritablement réussir à le comprendre. Ce sera, par exemple, une série comme Hannibal, je peux l'imaginer, qui nous représente comme ça un type, un psychopathe qui est plus fascinant que véritablement un support d'identification en tant que tel. Et puis, on a le héros, l'anti-héros beaucoup plus banal, celui qui n'est pas forcément mauvais à la base, mais dont on va assister à la chute. On a cité Walter White précédemment, mais on a aussi beaucoup d'autres exemples en tête. Je pense par exemple à une série comme Bates Motel, dans laquelle Norman Bates, vu que à nouveau il s'agit d'observer son enfance, hein, les origines à nouveau du mal, était probablement un garçon pas totalement psychopathologique au départ, mais dont l'évolution qui nous est présentée va nous le montrer tomber de plus en plus dans ces travers-là. Donc voilà, ça c'est une sorte d'anti-héros qui est tout simplement le contraire du héros positif, c'est le héros négatif. Et puis on va aussi avoir une autre sorte d'anti-héros qui n'est pas tellement négatif, mais qui, par rapport au héros, sera tout simplement quelqu'un d'assez ordinaire. Alors cette personne ordinaire va pouvoir vivre des situations extraordinaires, mais elle va aussi pouvoir vivre des situations tout simplement ordinaires. Hein.
Tout à fait normal, oui.
Toutes les séries qui nous proposent de suivre des personnes qui, dans leur quotidien, je ne sais pas, beaucoup, notamment des dramédies, fonctionnent là-dessus. Hein. Dernièrement, la série Love, c'était un peu ça, c'est des gens assez ordinaires, assez voire médiocres, qui vivent des situations absolument banales. Ça, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve beaucoup actuellement. Mais on a aussi des héros ordinaires qui vont devoir endosser un destin beaucoup plus extraordinaire, même si en série... J'arrive pas à trouver un exemple là tout de suite. En fait, mon exemple vient du cinéma. Il s'agirait par exemple de Frodon qui est finalement un hobbit totalement ordinaire et qui va se retrouver à mener une quête qui le dépasse un petit peu. En série, est-ce que tu aurais eu une idée, un exemple comme ça?
Non.
Là, tout de suite, j'en ai pas et j'avoue que j'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Donc voilà, on donnera pas d'exemple pour ça. Alors, on a aussi le héros qui va être à contre-emploi, mais ça, je crois que j'en ai déjà parlé un petit peu. C'est le héros extraordinaire, mais qui va vivre des situations ordinaires. Et puis, on en a déjà parlé aussi, le héros multiple. Et là, c'est la combinaison de ces différentes personnalités qui va rendre l'ensemble généralement extraordinaire. C'est aussi à travers le groupe que va se faire le compromis. J'avais expliqué dans la partie précédente que le héros incarne une sorte de compromis vis-à-vis d'une problématique plus ou moins philosophique, hein, eh bien, dans le héros multiple, on n'a pas l'incarnation dans un seul personnage, mais dans la dynamique d'un groupe, on va avoir également l'incarnation de ce compromis qui se perd. Quoi qu'il en soit, alors, on peut observer que de plus en plus, avec le temps, on a vu se développer des héros de moins en moins positifs, des héros de moins en moins extraordinaires, des héros qui vivent des situations aussi de plus en plus banales, hein, même si, en parallèle, depuis quelques années, se développent également énormément de séries qui portent sur les anti-héros, mais même les séries qui portent sur les super-héros dernièrement vont beaucoup plus nous les présenter de manière beaucoup plus réaliste et finalement comme des personnages qu'on essaie de nous rendre beaucoup plus proches et accessibles, oui, qu'avant. Alors, ce que ça peut révéler, j'ai l'impression, c'est deux choses. La première chose, j'en ai déjà parlé énormément, c'est le fait qu'on vive dans un système de pensée beaucoup plus pragmatique et donc dans un rejet de tout ce qui n'est pas suffisamment réaliste au goût du public. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que alors que la fonction qu'on attribuait aux fictions précédemment était sans doute plus une fonction d'éducation morale, donc on nous présentait des héros positifs parce que c'était censé nous apprendre à mieux nous comporter, c'était des modèles moraux, et maintenant on est plus dans l'observation un petit peu plus scientifique, psychologique de comment fonctionne l'âme humaine. Et donc la fonction forcément de la fiction qui a changé modifie également les types de héros qui vont nous intéresser.
Bien, ce sera le mot de la fin, si tu le veux bien.
Mais je le veux bien.
On va se quitter juste en vous rappelant que le podcast de cette émission sera disponible bientôt sur le web via notamment le site internet de l'émission www.seriefolie.be, les réseaux sociaux également, Seriefolie. Vous faites une petite recherche sur Facebook, Twitter également.
Oui.
Voilà, et pour le reste, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouveau sujet, une nouvelle émission. On va se quitter en musique.
Oui, on va se quitter avec la musique qui sert de générique, qui servait de générique à My Mad Fat Diary. Il s'agit de One to Another des Charlatans.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Change in the way to feel.
Believers and hope to keep the faith. I don't need you, I can't.